Chapitre 8. Quand on passerait de la lumière directe du soleil à cette même lumière réfléchie par la lune, nous allons, après la représentation intuitive, immédiate, qui se garantit elle-même, considérer la réflexion, les notions abstraites et discursives de la raison, dont tout le contenu est emprunté à l'intuition, et qui n'ont de sens que par rapport à elle. Aussi longtemps que nous demeurons dans la connaissance intuitive, tout est pour nous lucide, assuré, certain. Ici, ni problème, ni doute, ni erreur, aucun désir, aucun sentiment de l'au-delà. On se repose dans l'intuition, pleinement satisfait du présent. Une telle connaissance se suffit à elle-même. Aussi, tout ce qui procède d'elle simplement et fidèlement, comme l'œuvre d'art véritable, ne risque jamais d'être faux ou démenti. Car elle ne consiste pas dans une interprétation quelconque, elle est la chose même. Mais avec la pensée abstraite, avec la raison, s'introduisent dans la spéculation le doute et l'erreur, dans la pratique l'anxiété et le regret. Si dans la représentation intuitive, l'apparence peut un instant déformer la réalité, dans le domaine de la représentation abstraite, l'erreur peut régner pendant des siècles, étendre sur des peuples entiers son joug de fer, étouffer les plus nobles aspirations de l'humanité, et faire charger de chaînes par ses dupes et ses esclaves celui-là même qu'elle n'a pu abuser. Elle est l'ennemi contre lequel les plus grands esprits de tous les temps ont eu à soutenir une lutte inégale, et les conquêtes qu'ils ont pu faire sur cet ennemi sont les seuls trésors du genre humain. Il est donc utile, au moment de pénétrer dans son domaine, d'attirer sur lui l'attention. On a dit souvent qu'il fallait chercher la vérité alors même qu'on n'en voyait pas l'utilité. L'utilité, en effet, peut ne pas être immédiate et apparaître au moment où l'on y compte le moins. J'ajouterai qu'il faut à tout prix dénoncer et extirper l'erreur lors même qu'on n'en aperçoit pas les inconvénients, parce que ces inconvénients peuvent être eux aussi indirects et se révéler à l'improviste. Toute erreur porte en elle une sorte de venin. Si c'est l'intelligence et la science qui font de l'homme le maître de la terre, il en résulte qu'il n'y a pas d'erreur inoffensive, et encore moins d'erreur respectable ou sacrée. Et pour rassurer ceux qui, d'une manière ou de l'autre, usent à ce noble combat leur force et leur vie, je ne saurais me dispenser d'une autre observation. C'est que l'erreur peut bien se donner libre carrière, tant que la vérité n'a pas fait son apparition et s'agiter à la faveur de la nuit, comme les hiboux et les chauves-souris. Mais les hiboux et les chauves-souris feraient rétrograder le soleil vers l'Orient, avant que l'erreur passée parvînt à reprendre sa large place et à faire rebrousser chemin à la vérité, une fois reconnue et hautement proclamée. Telle est la toute-puissance de la vérité. Sa victoire est lente et pénible, mais une fois remportée, nul ne saurait la lui arracher. Il existe donc, d'une part, les représentations étudiées jusqu'ici, qui, considérées au point de vue de l'objet, peuvent se ramener au temps, à l'espace et à la matière, et, envisagées au point de vue du sujet, se rapportent à la sensibilité pure et à l'entendement ou connaissance par la causalité. Mais outre ces représentations, il y a encore dans l'homme, et dans l'homme seul parmi tous les hôtes de l'univers, une autre faculté de connaître, et comme une nouvelle conscience que le langage appelle, avec une infaillible justesse, réflexion. Elle n'est en effet qu'une sorte de reflet ou d'écho de la connaissance intuitive. Toutefois, son essence et sa constitution diffèrent absolument des modes de l'intuition, et le principe de raison, qui est la règle de tout objet, revêt ici une forme très spéciale. Cette nouvelle conscience, sorte de connaissance au second degré, cette transformation abstraite de tout élément intuitif en un concept non intuitif de la raison, communique seule à l'homme cette prévoyance, Besonnenheit, qui distingue si profondément son intelligence de celle des animaux et qui rend sa conduite si différente de la vie de ses frères dépourvus de raison. Il les surpasse aussi de beaucoup par sa puissance et sa capacité de souffrir. Eux ne vivent que dans le présent. Lui vit, de plus, dans l'avenir et dans le passé. Ils ne satisfont que des besoins momentanés. Lui devine ceux qui ne sont pas encore et y pourvoit par 1000 institutions ingénieuses pour un temps où peut-être il n'existera plus. Tandis qu'ils sont absolument dominés par l'impression actuelle, l'homme peut, grâce aux notions abstraites, s'affranchir du présent dans ses déterminations. Aussi le voit-on combiner et exécuter des plans conçus d'avance, agir au nom de certaines maximes, sans tenir compte des circonstances accidentelles, ni des influences ambiantes. Il peut, avec le plus grand calme, prendre de prudentes dispositions au sujet de sa mort. Il est capable de dissimuler jusqu'à se rendre impénétrable et d'emporter avec lui son secret dans la tombe. Il a enfin le pouvoir de choisir réellement entre divers motifs, car ce n'est qu'in abstracto que plusieurs motifs peuvent être présents ensemble dans la conscience, apparaître par la comparaison comme exclusifs les uns des autres, et donner ainsi la mesure de leur action sur la volonté. Après quoi, le motif le plus fort finit par l'emporter. Il devient la décision réfléchie de la volonté, à laquelle il confère ainsi son caractère essentiel. L'animal, au contraire, n'est déterminé que par l'impression du moment. Seule la crainte d'un châtiment instantané peut contenir ses appétits. Et cette crainte, passant en habitude, détermine bientôt ses actes. C'est tout l'art du dressage. L'animal sent et perçoit. L'homme pense et sait. Tous les deux, ils veulent. L'animal communique ses sensations et son humeur par des mouvements et des cris. L'homme dévoile ou cache à autrui ses pensées à l'aide du langage. Le langage est le premier produit et l'instrument nécessaire de sa raison. Aussi voit-on en grec et en italien le même mot signifier à la fois la raison et le langage, il discorso. En allemand, Vernunft vient de Vernehmen, comprendre, qui n'est pas synonyme de Hören, entendre, mais qui signifie l'intelligence des idées exprimées par les mots. C'est seulement grâce au langage que la raison peut réaliser ses plus grands effets. Par exemple, l'action commune de plusieurs individus, l'harmonie des efforts de milliers d'hommes dans un dessein préconçu, la civilisation, l'État. Puis d'autre part, la science, la conservation de l'expérience du passé, le groupement d'éléments communs dans un concept unique, la transmission de la vérité, la propagation de l'erreur, la réflexion, la création artistique, les dogmes religieux et les superstitions. L'animal n'a l'idée de la mort que dans la mort même. L'homme marche chaque jour vers elle avec pleine connaissance. Et cette conscience répand sur la vie une teinte de mélancolique gravité, même chez celui qui n'a pas encore compris qu'elle est faite d'une succession d'anéantissements. Cette préscience de la mort est le principe des philosophies et des religions. Pourtant, on ne saurait dire si elles ont jamais produit la chose qui a le plus de prix dans la conduite humaine, la libre bonté et la noblesse de cœur. Leurs fruits les plus évidents sont, au point de vue philosophique, les conceptions les plus étranges et les plus hasardées. Au point de vue religieux, les rites les plus cruels et les plus monstrueux dans les différents cultes. Tous les siècles et tous les pays sont unanimes à reconnaître que toutes ces manifestations de l'esprit, quelque variées qu'elles soient, procèdent d'un principe commun, de cette faculté essentielle qui distingue l'homme de l'animal, appelée la raison. ou ratio. Tous les hommes savent reconnaître les manifestations de la raison, et lorsqu'elle entre en conflit avec d'autres, discerner l'élément rationnel de l'irrationnel. Ils savent aussi ce qu'on ne doit jamais attendre, même de l'animal le plus intelligent, toujours dépourvu de cette faculté. Les philosophes de tous les temps sont d'accord pour voir dans la raison une faculté de connaissance générale, et de plus, mettent en lumière quelques-unes de ses manifestations les plus importantes. Par exemple, l'empire exercé par l'homme sur ses sentiments et ses passions, la puissance de juger et de poser des principes universels, antérieurs à toute expérience, etc. Pourtant, toutes leurs théories sur l'essence même de la raison sont flottantes, mal arrêtées, diffuses, sans unité et sans convergence. Tantôt elles font ressortir telle fonction, tantôt telle autre, et elles arrivent ainsi à se contredire. Cette confusion est encore aggravée par l'opposition primitive que beaucoup établissent entre la raison et la révélation, opposition absolument étrangère à la philosophie. Il est singulier que jusqu'ici aucun philosophe n'ait su ramener à quelques fonctions simples et faciles à reconnaître ces manifestations multiples de la raison. Cette fonction, qui se retrouverait dans toutes et servirait à les expliquer, constituerait véritablement l'essence intime de la raison. Le sage Locke, dans son essai sur l'entendement humain, livre 2, chapitre 11, paragraphe 10 et 11, signale très nettement l'existence des notions abstraites et générales chez l'homme, comme le trait qui le distingue de l'animal. Leibniz, dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain, livre 2, chapitre 11, paragraphe 10 et 11, souscrit à cette opinion qu'il reproduit pour son compte. Mais quand Locke, au livre 4, chapitre 12, paragraphes 2 et 3, en vient à donner la véritable théorie de la raison, perdant tout à fait de vue ce caractère essentiel, il s'égare dans une énumération vague, incertaine et incomplète de manifestations dérivées et partielles de la raison. Leibniz lui-même, dans la partie de son œuvre qui correspond à celle de Locke, ne fait qu'ajouter à la confusion et à l'obscurité. Kant, ainsi que je l'explique amplement dans l'appendice qui lui est consacré, a encore compliqué et faussé la vraie notion de l'essence de la raison. Mais si l'on voulait se donner la peine de parcourir, à propos de cette question, des nombreux écrits philosophiques parus depuis Kant, on reconnaîtrait que si les fautes des princes sont la ruine des États, les erreurs des grands esprits étendent leur influence funeste sur des générations, sur des siècles entiers. Il semble qu'à la longue, croissant et multipliant, elles engendrent de véritables monstres intellectuels, car, suivant le mot de Berkeley, si peu d'hommes savent penser, tous néanmoins tiennent à avoir des opinions. L'entendement, on l'a vu, n'a qu'une fonction propre, la connaissance immédiate du rapport de cause à effet, et l'intuition du monde réel, aussi bien que la prudence, la sagacité, la faculté de l'invention, ne sont évidemment que des modes variés de cette fonction primitive. Or, rien n'est de même de la raison. Elle n'a qu'une fonction essentielle, la formation des concepts. De cette source unique dérivent tous les phénomènes que nous avons énumérés plus haut et qui distinguent la vie humaine de la vie animale. Le discernement établi de tout temps et partout entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas, à son fondement dans la présence ou l'absence de cet acte primitif.